Cap-Fraîcheur vous offre l'heure.
À Radio Rythme Bleu, il est 7h.
Cap-Fraîcheur, votre supermarché au complexe Bellevue. Boucherie Côte Ouest, fruits et légumes, poissonnerie RIP, fromagerie, des produits frais à petit prix. Du lundi au samedi, 7h-19h et le dimanche, 7h-12h30. Cap-Fraîcheur, cap sur les prix, cap sur le frais. Radio Rythme
Bleu. Info week-end avec Mickaël Juneski.
À la une, les locaux de la société Plastinor touchés par un incendie cette nuit à Pointe-Boute. Les pompiers ont pu rapidement intervenir sur place pour maîtriser le sinistre. L'actualité nationale, François Bayrou se donne 2 mois pour mettre un point final au plan de rigueur budgétaire présenté cette semaine par le Premier ministre, alors que les oppositions brandissent la menace d'une motion de censure. À l'international, les négociations des droits de douane avec les États-Unis. L'Union européenne pourrait avoir recours à son bazooka commercial, jamais utilisé si les discussions échouent face à Donald Trump. Dans le Pacifique, la découverte de l'épave d'un navire japonais au large des îles Salomon, vestige des batailles navales dans la région de Guadalcanal durant la Seconde Guerre mondiale. En Calédonie, une opération de déstockage de vêtements à la ressourcerie qui a attiré de nombreuses familles hier à Nouméa, tous les linges au prix de 100 francs seulement. Le sport, du foot au féminin et les Françaises qui tentent de passer les quarts de finale de l'Euro, elles affrontent en ce moment même les Allemandes. Et puis en Calédonie, nouvelle soirée de cyclisme sur piste à Magenta. Les jeunes pratiquants sont très motivés par cette discipline. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Week-end pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité en Calédonie, je vous le disais en titre, un incendie est survenu cette nuit dans la zone industrielle de Pointe-Boute. C'est le magasin Plastinor qui est parti en fumée, Léo Fichot.
L'incendie s'est déclaré vers 1h30 cette nuit et effectivement, c'est la surface de vente d'environ 500 mètres carrés qui était en proie aux flammes lorsque les pompiers sont arrivés sur place. Des pompiers de Koné, épaulés par ceux de la sécurité civile. Des produits plastiques brûlés, ils ont pu également entendre des bouteilles de gaz exploser. Premier objectif pour les soldats du feu, limiter la propagation de l'incendie et éviter que l'atelier attenant au magasin ne prenne feu. Grâce à leur intervention rapide, l'atelier de fabrication et de stockage, environ 2000 mètres carrés, n'a pas été touché par les flammes. Une bonne nouvelle pour la société Plastinor, mais aussi pour les riverains, puisque des tuyaux en polyéthylène sont stockés dans cet entrepôt. Des produits qui, s'ils brûlent, dégagent du monoxyde de carbone dangereux pour la santé. À l'heure où je vous parle, les pompiers sont toujours sur place. Ils continuent d'éteindre les derniers points chauds pour éviter tout nouveau départ de feu.
Et je vous rappelle que mardi dernier, c'est l'incendie au dépotoir de Koné qui avait nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du Civum VKP, un feu d'origine criminelle qui avait dû être traité sur plusieurs jours. L'actualité nationale avec la hausse de l'insécurité dans les villes de province. À Limoges, dans le Limousin, les forces de l'ordre font face depuis le 14 juillet dernier à des scènes de violence. 10 policiers ont été blessés par des jets de pierre et des tirs de mortier. Des individus mettent en place des guet-apens aux gardiens de la paix. Le maire parle de guérillas urbaines. Dans ce contexte d'accroissement des faits de violence, des municipalités cherchent des solutions pour faire face à ce phénomène grandissant. Actuellement, seuls 58% des policiers municipaux sont armés en métropole. La décision revient à chaque commune. Illustration dans la petite commune de Sarreguemines, 21 000 habitants, où la mairie a choisi de passer le cap. Mélina Fachin pour Europe 1.
Au début de son mandat, Marc Zingraff, maire d'hiver droite de Sarreguemines, ne souhaitait pas armer sa police municipale, mais il faut vivre avec son époque, dit-il.
Avec un contexte qui se durcit sur un certain nombre de points relatifs à la sécurité, il nous semble important que notre police municipale puisse défendre les gens, se défendre elle-même et puis bénéficier d'un effet dissuasif simplement du simple fait d'être armé.
Les 6 policiers municipaux, bientôt 7, seront formés, mais la plupart d'entre eux ont déjà porté une arme de poing au cours de leur carrière. Pour Michael Billon, chef de la police municipale, cette mesure est nécessaire.
Toute situation peut très vite dégénérer. Tout simplement, des fois, des histoires de stationnement hein, pour des problèmes de voisinage. On voit bien que les gens sont de plus en plus agressifs, ont beaucoup de mal à accepter l'autorité. Quand on porte un uniforme, quand on est un élu, on est des cibles.
Et tous les Sarreguemines interrogés se disent favorables aux armes pour leurs policiers.
Bien sûr, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal.
C'est dissuasif d'un côté, puis en même temps, c'est rassurant pour eux-mêmes.
Au moins qu'ils puissent se défendre.
Les policiers municipaux seront également équipés de caméras piétons pour prévenir les incidents. Sarreguemines, Mélina Fachin, Europe 1.
Et je rappelle également que dans le sud de la France, la ville de Nîmes fait actuellement face à des groupes de narcotrafiquants lourdement armés qui publient même des vidéos sur les réseaux sociaux pour pour prendre le contrôle de quartier. Et la mairie a décidé de mettre en place un couvre-feu à Nîmes, donc dès la semaine prochaine. L'actualité politique et le Premier ministre reprend la parole lors d'un déplacement dans sa ville de Pau, dont il est toujours maire, à l'occasion de l'étape du Tour de France. François Bayrou s'est de nouveau exprimé sur son plan budgétaire qui a pour objectif, on le rappelle, de parvenir à réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies en 2026. Il est resté discret alors que l'opposition n'avait pas manqué de critiquer vivement les mesures annoncées. François Bayrou veut se donner du temps.
Il y aura probablement toutes sortes de prises de parole pour préciser, affiner, répondre, tout ça. On a 2 mois devant nous pour que ce plan trouve son achèvement. Ben vous voyez, c'est pas tout à fait le Tour de France, c'est pas tout à fait d'école. Encore que j'avais dit en entrant dans cette fonction que c'était l'Himalaya. Je ne m'étais pas trompé de ce point de vue-là, c'est absolument certain.
Selon le Premier ministre, les derniers arbitrages doivent en effet avoir lieu dans les prochaines semaines. Des conférences de répartition doivent se tenir jusque fin juillet afin de répartir plus précisément les crédits et les efforts à fournir. Les ministères devraient ensuite recevoir les lettres plafonds en août qui fixent leur budget pour 2026. Parmi les mesures dévoilées, le gouvernement veut notamment mettre en place une année blanche, c'est-à-dire un gel des budgets des ministères en dehors de celui de la défense et des prestations sociales. Cette mesure devrait permettre de dégager 7 milliards d'euros d'économies. Le Premier ministre prévoit aussi 5 milliards d'euros d'économies sur la santé, 4 milliards avec la suppression de 2 jours fériés. Le gouvernement demande aussi 5 milliards aux collectivités locales. Il espère enfin économiser près de 10 milliards en luttant contre la fraude fiscale et en supprimant certaines niches fiscales. Les oppositions ont déjà largement critiqué la feuille de route établie par le Premier ministre et le gouvernement pourrait se retrouver à nouveau sous la menace d'une motion de censure.
Radio Rythme Bleu, 7h07.
À l'international, selon le Financial Times, Donald Trump veut des droits de douane minimum de 15 à 20% sur les biens en provenance de l'Union européenne. Le président américain aurait durci le ton dans les négociations. Depuis des semaines, en effet, les négociateurs européens discutent dans l'espoir de parvenir à un accord avec leurs homologues américains. L'Union européenne est actuellement visée par des droits de douane de 10% sur ses biens exportés aux États-Unis, mais en l'absence d'accord, un taux de 30% s'appliquerait dès le 1er août, Léo Fichot.
Et selon le cabinet d'experts Bloomberg, l'Union européenne serait prête à accepter un accord prévoyant des tarifs douaniers de 10% en échange de certaines exceptions sur l'automobile, l'acier et l'aluminium, ainsi que les produits pharmaceutiques ou l'alcool. Le principal négociateur commercial de l'UE s'est rendu à Washington mercredi pour des pourparlers avec ses homologues américains, mais la Commission n'a pas donné de détails sur ses rendez-vous. En parallèle, l'Union européenne prépare sa riposte. La Commission européenne a déjà établi une liste de produits qu'elle pourrait taxer. Mais l'Union envisage aussi de cibler les services américains, y compris la tech et les services financiers susceptibles d'être soumis à des restrictions, par exemple sur l'accès au marché public européen. La France plaide de son côté pour une position ferme jusqu'à déployer son outil commercial le plus puissant, l'instrument anti-coercition surnommé Bazooka. Cet outil a été pensé comme un instrument de dissuasion à activer après épuisement des voies diplomatiques. Il permettrait notamment le gel de l'accès au marché public européen ou le blocage de certains investissements, mais nécessite plusieurs mois pour entrer en vigueur.
Et après la publication de ces informations dans le Financial Times, les marchés américains ont reculé. Le Dow Jones a cédé 0,32% et l'indice SP500 a perdu jusqu'à 0,2%.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
Dans la région Pacifique, aux îles Salomon, l'océanographe Robert Ballard et son équipe d'experts sont de retour dans les eaux de Guadalcanal, plus précisément dans la région maritime dite de Heron Bottom Sound, en vue d'y découvrir d'autres épaves à la veille du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Entre août et décembre 1942, 5 grandes batailles navales se sont déroulées au large de Guadalcanal. Elles se sont traduites par la perte de plus de 20 000 vies humaines, 111 navires de guerre et 1450 avions des forces alliées et de l'Empire du Japon. À ce jour, seuls 30 bâtiments de gros tonnage ont été découverts et 25 autres gisent toujours par le fond dans les eaux de Guadalcanal. Lorsque nous les avons explorés pour la première fois en 1991 et 92, a expliqué Robert Ballard, nous y avons identifié 12 navires alliés et japonais. Cette fois-ci, a-t-il poursuivi, nous disposons d'un ensemble bien plus impressionnant de véhicules sous-marins et de surface, ainsi que des systèmes acoustiques et d'imagerie avancés. Cette expédition vise aussi à honorer la mémoire des morts de la campagne de Guadalcanal et à garder vivante l'ampleur de leurs sacrifices, a-t-il ajouté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 7h passé de 10 minutes, une page de publicité dans ce journal avant de revenir à l'actualité en Calédonie. À tout de suite.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lansvata face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Jusqu'au vendredi 25 juillet, gagnez un séjour à l'hôtel Le Stanley. Logez une semaine, ensuite Ylang Ylang. Petit déjeuner inclus pour deux personnes offert par l'hôtel Le Stanley. Un cadeau d'une valeur de 242 200 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 25 juillet à 14h. 371 francs le SMS. Profitez d'un endroit calme, proche de la ville, à l'hôtel Le Stanley. L'hôtel vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres et suites climatisées et tout équipées. Profitez aussi de la piscine, d'une vue imprenable sur le lagon et des petits déjeuners. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel, téléphone 23 23 23. Pour jouer, envoyez chance au 40 20. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Info week-end, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Mickaël Jeuneski.
Et un accident de la route est survenu dans des conditions qui restent à éclaircir vendredi soir. Un homme de 28 ans qui a été blessé à Dimbéa dans le secteur de Val-Suzon. Il se serait fait rouler dessus par un véhicule à faible allure. Ses jours ne sont toutefois pas en danger. Il a été admis le soir même au Medipôle avec des douleurs au bassin. Une enquête a été ouverte par les gendarmes. À Kouaoua, une tentative de cambriolage dans un magasin en pleine nuit. Des voleurs sont entrés par effraction dans le commerce pour faire main basse et essentiellement sur de l'alcool et des cigarettes. C'était aux environs d'une heure du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont été mis en fuite par le gérant des lieux. Là encore, une enquête a été ouverte. Au chapitre politique, le Palika réunissait ses militants pour un congrès extraordinaire hier à Vaud. Une réunion qui était l'occasion d'échanger sur le projet d'accord de Bougival, mais aussi d'évoquer les étapes à venir. Jean-Pierre Jaywe, l'un des porte-parole du mouvement, a notamment défendu ce projet d'accord trouvé en région parisienne et a déclaré dans son discours, je cite, « Nous nous engageons à le présenter aux populations calédoniennes et à le défendre en l'état. On n'a pas à changer une virgule ou un mot. Il faut le laisser tel quel. » Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, les associations de seconde main croulent sous les vêtements. C'est le constat de la directrice de la ressourcerie à Nouméa. L'association caritative organisait hier une opération de déstockage. Deux vêtements achetés pour 100 francs seulement. L'événement a attiré du monde rue de l'Alma. Les clients faisaient même la queue avant l'ouverture de la boutique à 8h. Et ils ne sont pas repartis les mains vides.
C'est faire du déstockage parce qu'on a beaucoup de vêtements qu'on récupère. Beaucoup de vêtements qu'on malheureusement on stocke pour une partie. Donc on revend une partie, on redonne à certaines associations de l'autre côté. Mais là, on se retrouvait un petit peu noyé sous l'événement. Donc, on a décidé d'en faire profiter le plus grand nombre. Et étant donné l'espace qu'on a, le local qu'on a actuellement, on n'est pas en capacité de tout mettre en boutique. Donc, il faut aussi qu'on trouve voilà, des moyens pour pouvoir en mettre le maximum dans le circuit. Au 31 décembre, nous n'avons plus les locaux du 17 rue de l'Alma. On est aussi dans une dynamique. De toute façon, on fait en sorte que ça reparte dans le circuit toujours. Mais là, on anticipe un petit peu la fin de l'année, étant donné qu'il va falloir faire un grand déménagement.
Cécile Oxford, la directrice de la ressourcerie. Les personnes qui avaient fait le déplacement étaient ravies de cette opération.
Bah moi, en fait, j'ai des enfants qui grandissent. Donc, je suis là principalement pour eux parce que ça me permet de les vêtir à moindre coût. Et puis, en plus, je suis très seconde main. Je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir ce genre d'association.
Oui, on fait beaucoup de picroniers avec maman, puis friperie, tout ça. Bah, pour trouver des vêtements, vu que c'est pas cher.
Pour faire des bonnes affaires, parce que le seconde main, c'est quelque chose que je pratique depuis toujours. J'achète jamais neuf. Et donc, du coup, bah, voilà, on profite un petit peu de ces occasions, en tout cas, pour faire des bonnes affaires. Moi, en premier lieu, c'est l'aspect écologique. Et après, c'est l'aspect aussi économique.
À noter que l'association de la ressourcerie recherche désormais de nouveaux locaux, la structure qui fonctionne notamment grâce à une trentaine de bénévoles actifs.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Un retour en enfance hier matin à Païta avec la 4e édition de la course de pneus. Et cette année, l'événement était organisé sur le parking de l'Hyperu, Léo Fichot.
Oui, et c'est un changement de lieu, mais toujours la même ambiance. Pour le plus grand plaisir des participants, deux parcours étaient proposés. Je les rappelle, une ligne droite classique sur 100 mètres et puis un parcours de franchissement d'obstacles. Un obstacle à contourner, un autre à franchir. Thélo est venu avec ses enfants. Un moment de partage autour d'un jeu d'antan.
Magnifique, magnifique, magnifique de leur montrer ça. Super en même temps et joueur en même temps. Ouais.
Et alors, ils sont bien entraînés les petits?
Oui, ça va, ça va, ils sont prêts, ils sont prêts.
Comment vous les avez entraînés?
C'est vite fait, en leur montrant un peu ce qu'on a appris à l'époque, quoi.
Tu bloques bien les bois, c'est ce qu'il nous a fait montrer, le papa. Après, après tu peux courir.
Voilà, à l'époque, on n'avait pas trop de jouets, donc on s'amusait à jouer avec ça, quoi. C'était ça nos jeux favoris à l'époque.
À la maison, on s'ennuie, on regarde la télé. Faire un peu des activités que c'est à la maison.
Et voilà, après peut-être ils vont s'habituer à jouer à ça et après ça va être une habitude dans le quartier après. Voilà, c'est un bon jeu quoi.
Et en parallèle de la course de pneus qui se disputait en relais par équipe de 4, était organisé le concours du plus beau pneu et on peut féliciter Lilou qui a proposé un magnifique pneu donuts.
7 heures passées de 16 minutes, une page de publicité avant de voir toute l'actu sport.
La mairie de Païta et le comité des fêtes vous informent. La 27e fête du bœuf est reportée au dimanche 12 octobre en raison des fortes pluies. Rendez-vous en octobre pour partager tous ensemble une belle journée festive. Plus d'infos sur ville-païta.nc.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info week-end, le sport, on retrouve Mickaël Juneski.
Et à la une de l'actu sport du rugby, le troisième et dernier test match en terre néo-zélandaise pour le 15 de France. Et c'est une troisième défaite, Léo Fichot.
Et oui, hier soir, les Bleus ont dominé une bonne partie de la première période, ouvrant même le score dès la 8e minute grâce à un essai de Nolan Le Garec. À la pause, le 15 de France menait même 19-17. Mais en seconde période, la chance a tourné. Les Blacks ont repris le dessus pour s'imposer finalement 29-19. Écoutez le sélectionneur Fabien Galtier.
On avait le score à la mi-temps, ça a été dur, franchement ça a été dur. Des moments vers la 60e, on a deux opportunités de reprendre le score sur l'occasion d'Emilien, la touche, le jeu près des lignes, on se fait gratter le ballon. On n'a pas beaucoup et il faut mettre le peu qu'on a. Techniquement, on se fait gratter le ballon, on joue bien. On a deux coups de pied à mettre aussi, ça nous aurait donné un peu de... Parce qu'on n'a pas marqué un point en deuxième mi-temps, quoi. On a fait front, mais... Et puis physiquement, ça a été dur, les gars n'ont rien lâché. Je suis déçu pour les gars parce que vraiment, ils se sont préparés pour gagner le match. Je ne sais pas si ça s'est senti, mais ils se sont vraiment préparés en croyant qu'on pouvait gagner le match.
Pour rappel, le 15 de France, sans de nombreux cadres restés en métropole dans leur club, s'est incliné 27-31 il y a deux semaines, puis 17-43 le week-end dernier, et enfin donc 19-29 hier.
Du foot au féminin avec la demi-finale de l'Euro.
L'équipe de France est opposée depuis 6 heures à l'Allemagne. Ça avait très bien commencé avec l'expulsion d'Hendrick à la 13e minute et l'ouverture du score sur pénalty de Grace Gueiro. Mais les Allemandes ont égalisé à la 25e minute. On pensait que les Bleus étaient repassés devant à la 40e grâce à Delphine Cascarino. Malheureusement, le but des tricolores a été refusé. À la pause, il y avait donc un but partout. Mais à l'instant, l'équipe de France vient de passer devant grâce à Gueiro qui inscrit un doublé. 57e minute de jeu, 2-1 pour l'équipe de France face à l'Allemagne.
Eh bien, la bonne nouvelle en direct, évidemment, restez à l'écoute dans nos prochains rendez-vous d'information. On continuera de vous donner les résultats en temps réel de ce match de l'équipe de France face aux Allemandes. On passe au cyclisme avec le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Et ce n'est pas le Slovène Tadej Pogacar qui a gagné la 14e étape dans les Pyrénées. L'actuel maillot jaune n'a terminé que deuxième de l'étape du jour. Le point avec Axel May du service des sports d'Europe 1.
On retiendra de cette dernière étape pyrénéenne que Tadej Pogacar ne s'est pas imposé comme il l'avait fait hier et avant-hier, laissant la victoire au néerlandais Arensman, mais qu'il a tout de même fini deuxième, grappillant quelques secondes supplémentaires à son dauphin au classement général, Jonas Vingegaard. Je n'avais pas les jambes de feu, commente à l'arrivée le cannibale slovène, qui qui demain devrait rester à l'abri dans le peloton pour une étape arrivant à Carcassonne qui pourrait sourire aux baroudeurs. Il y aura alors la journée de repos lundi, puis le Mont Ventoux où Pogacar aura certainement retrouvé ses jambes de feu. Pour revenir à l'étape du jour, on retiendra aussi que Lenny Martinez s'est battu comme un beau diable afin de prendre des points au classement de la montagne, même s'il est talonné par Pogacar. On retiendra enfin l'abandon du maillot blanc de meilleur jeune, le belge Remco Evenepoel, ce qui permet à Kevin Vauquelin, premier français, de remonter à la cinquième place du classement général.
Axel May du service des sports d'Europe 1. On passe au sport mécanique et tout d'abord en MotoGP. Les week-ends se suivent et se ressemblent, Léo Fichaud.
Oui, les pilotes sont en République tchèque et c'est cette nuit sur la sprint race qu'une nouvelle fois, Marc Marquez s'est imposé. Il a devancé un autre espagnol, Pedro Acosta, qui monte pour la première fois sur un podium lors d'une course sprint. L'italien Enea Bastianini complète le podium. Les français Fabio Quartararo et Joan Zarco sont bien placés. Ils terminent respectivement 5e et 8e. Ce soir, le départ du Grand Prix sera donné à 23h.
Et puis sur les routes estoniennes à présent, après 17 spéciales de disputés, c'est Oliver Solberg qui est en tête du rallye d'Estonie, une nouvelle manche du championnat du monde. Le Suédois possède 21 secondes d'avance sur Ott Tänak, 25 sur Thierry Neuville. Le Français Adrien Fourmeau est en 5e position. Il est à 1 minute et 8 secondes du leader. L'actualité du tennis pour signaler que Loïs Boisson est en finale du tournoi WTA 250 d'Hambourg, Léo Fichaud.
La Française se plaît plutôt bien sur terre battue. Elle avait atteint, on le rappelle, le dernier carré de Roland-Garros et va désormais disputer sa première finale sur le circuit WTA. Cette nuit, en demi-finale, elle s'est imposée 2-7 à 0, 6-1, 7-6 sur Dayana Yastremska. Elle affrontera la nuit prochaine en finale la Hongroise Anna Bondar.
Et puis retour au football, on vous le disait, le match des Françaises face à l'Allemagne pour le quart de finale de l'Euro. On vous l'annonçait, mais ce but signé Grace Gueyoro a finalement été refusé à nouveau, tout comme le but inscrit un peu plus tôt par Delphine Cascarino, décidément. C'est compliqué pour l'équipe de France, le score est donc toujours de 1 but partout face à l'Allemagne. Nous en sommes à l'heure de jeu dans cette rencontre, avec en vue une place en demi-finale de l'Euro.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le sport en Calédonie du cyclisme sur piste avec les jeunes réunis ce samedi au Vélodrome de Magenta pour une nouvelle compétition avec plusieurs catégories représentées. C'était l'occasion pour la nouvelle génération montante chez les pistards du caillou, comme on dit, de continuer d'engranger de l'expérience, de se livrer de belles courses à l'image de Raphaël Delatière, 16 ans du club du VCC Mont d'Or.
Dur, mais sinon ça fait toujours plaisir de pouvoir s'entraîner un peu de cette manière. Pour ici c'est important parce qu'on n'est pas un pays extrêmement développé et puis quand on a besoin de partir à l'étranger, c'est mieux d'avoir de la concurrence en course pour pouvoir mieux performer à l'étranger. Ouais, il y a des niveaux assez... ça va quand même, il y a de quoi faire. Pour s'entraîner, on arrive à peu près à progresser là où on veut. Il y a du monde un peu partout dans toutes les disciplines, alors c'est important.
La piste s'est redynamisée ces dernières années. Les résultats sont désormais au rendez-vous. Des jeunes sportifs qui réalisent leurs rêves avec des compétitions nationales et internationales, comme Louise Chavitz de l'école calédonienne du vélo, déterminée à poursuivre sa lancée en métropole.
Ça fait plaisir. Je pense que c'est dans la continuité de ce que j'ai déjà fait ici. Je suis rentrée au CTE, ensuite au Pôle Esport, et là, je me dirige vers le Pôle France.
Ça va être quoi la stratégie ?
Bah là, c'est de prouver que j'ai ma place en équipe de France et au Pôle France, de faire des résultats pour être sur les championnats d'Europe junior l'année prochaine. Il me reste encore un mois ici, donc ouais, je profite. Même si c'est pas des grosses compétitions, ça fait toujours plaisir.
À peine les jeunes coureurs commencent d'obtenir des résultats probants pour renouer avec les glorieuses heures du cyclisme sur piste calédonien que déjà la relève pointe le bout de son nez.
Je m'appelle Alexis Martoreggio et je suis dans l'école calédonienne du vélo. J'ai 11 ans.
Alors les courses de ce soir, comment ça se passe? Tu trouves ça comment globalement?
J'aime bien, c'est cool, je m'en sors, c'est bien.
Toi, le cyclisme sur piste, c'est quoi qui te plaît là-dedans?
Oui, j'aime la vitesse et le sprint, la technique.
T'aimerais en faire encore beaucoup dans les années qui viennent?
Oui, j'aimerais bien en faire beaucoup plus.
Tu sais qu'il y a des grands champions hein, qui viennent de Calédonie, ça te fait quoi?
Ouais, j'aimerais bien les dépasser.
Dépasser carrément? Champion olympique, pourquoi pas?
J'espère.
Cette motivation, c'est une grande satisfaction pour les organisateurs. On écoute Gérard Salin.
C'est important, on a réussi à redynamiser surtout sur piste, parce que la route c'est un peu difficile en ce moment. Mais la piste marche très bien. Beaucoup de records qui sont tombés malgré l'état de la piste vétuste. Donc les jeunes battent des records de leur catégorie, donc c'est très important. Ce soir, il y a Luis Chavis qui a encore battu son record personnel féminin en 12,52. C'est bien, et les jeunes montrent un engouement pour la piste. Il y a des jeunes vététistes qui étaient partis pour faire du VTT qui viennent sur piste, donc c'est intéressant. Puis il y a une émulation, depuis le début d'année, on a un cinquième record battu, ça nous fait plaisir en tout cas.
Et c'était la 10e compétition sur piste depuis le début de l'année au Vélodrome de Magenta. Dès vendredi prochain, une soirée sera proposée, cette fois en hommage à Jean-Claude Lecourieux, coureur sur route mais aussi champion de France de demi-fond en cyclisme sur piste, décédé l'année dernière. Le spectacle sera assuré avec des courses dès 18h30, ouvertes au grand public au Vélodrome de Magenta. Allez, on voit en bref le reste des résultats et des rendez-vous sportifs sur le territoire avec vous, Léo Fichot.
En football, d'abord, c'était hier, l'avant-dernière journée de Super League. Tigasport et Magenta confirment et terminent la phase régulière en tête de leur poule. Dans le groupe A, Tigasport s'est imposé 2-1 sur le Mont-d'Or. Gaïcha et Horizon Passau ont fait match nul, un but partout. Dans le groupe B, victoire 5-3 de Magenta sur Saint-Louis. Victoire également nette de Lossy 4-0 sur Nejeu. En futsal, on vous annonçait hier la reprise de la Super League à l'IFU, sous condition que les équipes soient à jour dans les démarches administratives. Malheureusement, il y a eu 4 forfaits et donc aucun des 4 matchs prévus ne s'est joué. En mer, le Cercle Nautique Calédonien organisait hier la 3e manche de son Challenge Croiseur Sirius Solar. Avec des conditions météo défavorables, une seule manche a pu être validée pour les 15 concurrents. En temps réel comme en temps compensé, c'est Pulpito MLS FCD qui s'est imposé.
Et puis on termine notre page des sports avec les Calédoniens engagés ce week-end dans des compétitions nationales et internationales.
En tennis d'abord, Nicolas Ngodrella et l'équipe d'Océanie Pacifique disputent toujours la Coupe Davis à Kuala Lumpur. Malheureusement, ils se sont inclinés hier soir contre l'Irak. Le Calédonien a été défait en 3-7, 6-4, 3-6, 3-6. Et puis en para-athlétisme, des Cagous ont brillé au championnat élite de Belfort. La délégation calédonienne a remporté 8 médailles d'or, 2 en argent et 2 en bronze. Pierre Fairbanks s'est imposé sur le 100, 400 et 800 mètres fauteuil. Anna Pipisega a remporté le lancer de poids fauteuil et le lancer de javelot. Vitolio Cavacava a également décroché l'or sur le lancer de poids fauteuil, mais aussi sur le lancer de javelot fauteuil. Enfin, Félicien Siapo a remporté le 200 mètres ambulant.
Merci Léo Fichou. 7h passées de 27 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Tous les détails de cette météo, c'est avec vous Thierry, bonjour.
Bonjour Michael, vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages sur les Loyautés. Des averses localement fortes et orageuses circuleront en matinée et en début d'après-midi. Ce matin, les Loyautés conserveront un temps maussade et pluvieux avec un risque orageux. Sur le nord, nuages et éclaircies alterneront. Le sud, les nuages domineront encore accompagnés d'averses isolées temporairement plus nombreuses en début de matinée sur le sud-est et l'île des Pins. Aux Loyautés, on parle du vent à présent, orienté nord-nord-ouest autour des 15 nœuds et il sera orienté ouest à nord-est souvent et l'est sera déventé. 5 à 10 nœuds sur la côte ouest. Cet après-midi, des averses parfois fortes, orageuses pourront encore intéresser le sud des Loyautés au début. Sur la pointe nord, les éclaircies seront bien présentes. Ailleurs, les nuages seront bien présents également et donneront quelques averses générales et faibles. Sur l'ouest, les pointes nord et sud, le vent orienté ouest à sud-ouest pour cet après-midi entre 10 et 15 nœuds. Les températures, 24 à 27 degrés en général et jusqu'à 28 degrés, ce sera sur l'est.
Merci beaucoup Thierry pour la météo et la technique. 7h28 minutes, c'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'info à 8h en vous souhaitant de passer un excellent dimanche, toujours à l'écoute de nos programmes.